tendre caresse. Fermons nos rideaux.
Vous m'avouerez que c'est tout à fait exquis, n'est-ce pas, cette chanson de Delmay. Alors, Delmay a fait beaucoup de chansons, un représentant typique de la Belle Époque. Il y a Envoi de fleurs, vous savez, où il envoie les fleurs à une femme et il dit...
J'ai cru que vous alliez vous mettre à la chanter.
Oui, enfin, c'est exquis, mais oui, non, il vaut mieux que je ne me mette pas à chanter. Et il dit, j'aurais préféré des bijoux somptueux, vous aussi peut-être.
Oui.
Voilà, enfin, cette chanson. Et puis il y a une chanson qui est très connue, qui est Les Petits Pavés, mais je préfère celle-là parce que celle-là est très typique des années 1900, je ne sais pas exactement quelle est la date, mais il y a beaucoup de réminiscences littéraires. D'abord, Pétrarque et l'or, vous l'avez entendu, et puis surtout le thème de s'enfermer pour un petit moment. C'est pas probablement d'ailleurs dans la journée, c'est pas,
oui.
c'est pas la nuit, c'est
plutôt, une activité.
C'est plutôt la sieste
que
le sommeil. Et ce thème, c'est un thème qu'on retrouve fréquemment dans la poésie française, par exemple du XVIe siècle, soit pour le déduit amoureux,
oui.
soit pour lire un livre. Il y a un célèbre poème, je ne sais plus si c'est de Ronsard ou de Du Bellay, qui commence par « Je veux lire en trois jours toute l'Iliade d'Homère, pour ce Coridon ferme bien lui sur moi. » C'est le même thème, n'est-ce pas ? On s'enferme, et puis on lit ou on fait l'amour. Alors, avec tous les incidents si amusants, là, des gens qui frappent, et
presque. Le bijoutier est renvoyé, là aussi.
Le bijoutier est renvoyé, le spa, et puis on s'aperçoit qu'en réalité, c'est la blanchisseuse. Alors, c'est presque égrillard, puisque elle apporte des draps neufs, alors que nous sommes en train de froisser des draps. Tout ça est très, 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 très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup Delmay.
Alors, plaisir d'amour vient tout naturellement, là.
Tout naturellement, j'admire énormément Joan Baez.
Les trésors de France Musique.
Plaisir. Chagrin d'amour dure toute la vie. Joys of love are but a moment long. The toute la vie.
John Baez, Plaisir d'amour.
C'est joli, non?
C'est très
joli.
Je
trouve qu'on a envie de l'embrasser après. Je sais très bien pourquoi j'aime la chanson. D'abord, là encore, c'est un thème très traditionnel et j'aime beaucoup en littérature, en musique, j'aime beaucoup les banalités. Je trouve qu'on n'a pas fait assez l'éloge de la banalité. Et bon, les recherches, c'est très bien, je suis très pour aussi, mais la banalité, c'est très important et je crois que le grand nombre aime beaucoup la banalité. Il a raison. Racine, c'est aussi la banalité. Les sentiments de tout le monde. Alors le thème, le plaisir d'amour, ça passe, et le chagrin d'amour, ça dure. Bien, c'est un thème admirable parce qu'il est très banal et que tout le monde le comprend.
Je pense à Au revoir et merci, que vous avez écrit il y a 15 ans.
Oui, à peu près, oui.
Oui. Est-ce que, quand vous l'avez repris, qu'est-ce qu'il y avait de changé? J'y pense parce que là, vous parlez de la banalité. J'avais remarqué une phrase. Vous disiez « Une certaine façon de prendre le monde et ce qui s'y passe avec avidité, sympathie et amusement m'a toujours paru plus plaisante que la sécheresse ou les lamentations. »
Oui, je le crois aussi.
Alors justement, je me demandais ce qui avait changé.
C'est parce que si j'ai fait ressortir le livre sans en changer une ligne, je crois que j'ai corrigé une faute de français, c'est tout ce que j'ai corrigé, c'est que c'était un contrepoint amusant à ma vie d'aujourd'hui. Parce que
ah oui, ça, c'est vrai.
Ce livre est un éloge du loisir, un éloge de l'indifférence et une certaine façon un peu insolente, gai et passionné mais indifférente de prendre la vie. Et c'était l'époque où j'écrivais par exemple qu'il y avait tout de même une justice dans le monde et qu'il était impossible d'être en même temps directeur du Figaro et d'avoir du talent. Alors je ne suis pas loin de le penser encore aujourd'hui.
Vous étiez interdit au Figaro.
Ah oui, j'étais sur la liste noire, oui. Pour les motifs trop lourds à expliquer ici.
Ça existe toujours, ça?
Vous me ferez l'honneur de croire que la première chose que j'ai faite en arrivant, c'était de supprimer la liste noire. Bon, alors, c'est pas, j'avais organisé ma vie en parfait égoïste. C'est-à-dire que j'avais refusé ou essayé de refuser tout ce qui était contrainte. Et je poussais ce goût de la liberté jusqu'au refus naturellement des honneurs, mais même des responsabilités. Je ne dis même pas que c'est très bien, je dis que c'était comme ça. Et aujourd'hui, évidemment, c'est tout le contraire. J'ai des responsabilités, j'ai des soucis, je suis accablé d'honneurs, l'Académie, le Figaro, des comités, et tout ça était évidemment extraordinairement contraire à tout ce que je racontais 15 ans auparavant dans Au revoir et merci. Et il y a une formule qui m'a toujours beaucoup plu, c'est à force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit. Alors j'espère que je ne suis pas encore tout à fait contaminé et que toutes ces strates de responsabilité et d'honneur n'affectent qu'une partie superficielle de moi-même. Je vis dans cette espérance, mais quelquefois c'est un peu de l'acrobatie. Alors ma vie était de l'acrobatie jadis parce que je refusais tout, et ma vie est de l'acrobatie maintenant parce que j'ai tout accepté, mais qu'il n'y a pas une adhésion très profonde. Et même il y a une espèce de recul.
J'adore mes sons. Continuons votre programme. Prélude et enchantement du Vendredi Saint de Parsifal.
Thank you.
L'enchantement du Vendredi Saint de Parsifal de Richard Wagner par l'orchestre symphonique de la radiodiffusion bavaroise que dirigeait Eugen Jochum.
Oui, je crois qu'il fallait mettre Wagner d'abord parce que je l'admire beaucoup, ensuite parce que dans ce programme qui est très, très classique, il fallait rendre hommage à Wagner, peut-être en partie à cause de l'accueil imbécile que lui ont réservé des Parisiens huppés quand il est arrivé à Paris. Alors aujourd'hui, naturellement, Wagner est lui-même un classique, mais il ne faut pas négliger la force du génie novateur dans l'art. Et autant il faut essayer d'éviter les battleurs et de se méfier de la mode qui passe très très vite. Rien ne passe vite comme l'avant-garde. Autant il faut garder quand même les possibilités de renouvellement du génie, de surprise du génie, et ne pas s'attacher exclusivement au passé. Alors en son temps, Wagner représente merveilleusement cette espèce de révolution musicale qui se transforme très vite en un acquis pour toujours, ce que les Grecs appelaient « kthema eis aiei ». Un peu de pédantisme. Vous comprenez bien que toute cette beauté qui se transmettra de génération en génération et qui est quand même une des formes pour l'homme de vaincre le temps qui passe, eh bien ce n'est pas acquis pour rien. Et que ça exige beaucoup de sacrifices, beaucoup de douleurs et beaucoup de chagrin. Et c'est un peu un lieu commun, romantique. Mais c'est vrai, je pense qu'il faut tout payer et que le bonheur de l'artiste, le bonheur de la création et la beauté doivent être payés.
Et je crois que Beethoven a payé.
Et Beethoven a payé.
Le prix fort.
Et Proust a payé. Et Dostoïevski a payé. Et tous ceux qui sont devenus fous et tous ceux qu'on a achetés en prison ont payé.
Septième symphonie, en La majeur, opus 92, Beethoven, dernier mouvement Allegro con brio, par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Wilhelm Furtwängler.
Thank you.
Le dernier mouvement de la 7e symphonie en La majeur, opus 92 de Beethoven, concluait le concert égoïste de Jean d'Ormesson. Une émission de Claude Maupomé diffusée sur France Musique en février 1977. Cette archive rejoint la collection des trésors de France Musique que vous pouvez écouter à toute heure grâce au podcast sur le site radiofrance.fr et via l'appli Radio France. Merci aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration et à Béatrice Trichet pour la réalisation.
C'était les trésors de France Musique par Françoise Monteil. Bienvenue dans les nuits de France Musique. Tout de suite, les essentiels de François-Xavier Chemchak.
Bonjour et bienvenue, voici les essentiels du chef d'orchestre Carlo Maria Giulini que nous évoquons 20 ans après sa mort au fil de ses enregistrements et au fil de ses voyages dans le monde, hier dans son Italie natale, demain à Londres, jeudi à Chicago et vendredi à Los Angeles. Aujourd'hui, voici Carlo Maria Giulini à Vienne et tout d'abord à Berlin, dirigeant ici les Berliner Philharmoniker et le chœur Ernst Zenf dans le Requiem de Giuseppe Verdi. 1989, année de la mort de leur général musique directeur Herbert von Karajan, et surtout année de la chute du mur de Berlin. 1989, les Berliner Philharmoniker, autrement dit les membres de l'orchestre philharmonique de Berlin, enregistraient pour Deutsche Grammophon Gesellschaft le Requiem de Verdi avec le chœur Ernst Zenf et avec notamment, on entendait à l'instant, la basse Simon Estes. Tout cela sous la direction de Carlo Maria Giulini avec ce tellurique Dies Irae. Et voilà ce qu'écrivait la musicologue Helke Grunewald. Une relation particulière unissait Carlo Maria Giulini au Berliner Philharmoniker. Le chef d'orchestre, élégant et de grande stature, est venu pendant 25 ans à Berlin, dirigeant à la Philharmonie pas moins de 91 concerts. Giulini y fait ses débuts en 67 dans un programme de musique sacrée, avec notamment le Requiem de Cherubini qu'on écoutait hier. La musique sacrée était également au programme de son ultime concert philharmonique. Giulini s'étant produit pour la dernière fois à Berlin en 92 dans l'une de ses œuvres préférées, le Requiem de Verdi. Le répertoire de Giulini était on ne peut plus varié. Il allait du baroque via les classiques et les romantiques jusqu'aux œuvres du XXe siècle. En dépit de nombreuses gravures de studio, Giulini faisait preuve d'un certain scepticisme envers l'enregistrement phonographique. Lors d'une conversation pour la revue musicale allemande Phonoforum, il disait en 1979 « J'essaie de ne réaliser un enregistrement que lorsque j'ai le sentiment d'avoir mûri l'œuvre en moi, l'enregistrement reposant alors sur l'expérience que j'ai pu en acquérir, cela doit se faire sans précipitation. Il n'a par ailleurs jamais caché qu'il préférait au concert, comme à l'opéra, l'aventure musicale sur le vif, comme ici avec ce même orchestre dans la première symphonie de Gustav Mahler. » Thank you. 1976, Carlo Maria Giulini dirigeait en concert l'Orchestre Philharmonique de Berlin dans la première symphonie, la symphonie Titan de Gustav Mahler, dont nous écoutions un extrait. Et Gustav Mahler va nous permettre de faire la transition entre Berlin et Vienne, ville chère au cœur de Carlo Maria Giulini, et très importante dans sa carrière, lui qui a été directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Vienne pendant quelques années, mais l'orchestre central, l'orchestre viennois qui a été le plus important pour lui, et réciproquement, c'est l'orchestre philharmonique de Vienne, le plus prestigieux, les Wiener Philharmoniker, que voici donc dans une autre partition de Gustav Mahler sous la direction de Giulini. C'est le Chant de la Terre avec la mezzo Brigitte Fassbender qui chante ici sur la beauté, d'après ce texte d'origine chinoise, des jeunes filles cueillent des fleurs de lotus au bord de l'eau. Au milieu des buissons et des feuilles, elles sont assises, rassemblant les fleurs sur leurs genoux et s'appelant l'une l'autre en se taquinant. Le soleil doré dépose ses rayons autour des formes et les reflète dans l'eau brillante. Le soleil reflète leurs membres minces, leurs doux yeux, et le zéphyr soulève avec des caresses câlines le tissu de leurs manches, la magie de leur parfum à travers les airs.
Oh!
Regardez comme de beaux jeunes gens s'ébattent là, le long de la rive, sur leurs vaillants coursiers, brillant au loin comme des rayons de soleil. Déjà au milieu des branches de saules verts, la troupe des jeunes gens arrive au trot. Le cheval de l'un d'eux hennit joyeusement et s'emballe et file à grande vitesse. Voilà ce que nous dit notamment ce texte, ce qui explique l'emballement également de la musique, ces galopades au centre de ce mouvement du chant de la terre de Gustav Mahler, von der Schönheit, de la beauté, avec ici, de la bonté, pardon, avec Brigitte Fassbender, et l'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Carlo Maria Giulini, un enregistrement de concert. Voici maintenant de nouveau Giulini, cette fois-ci avec Placido Domingo, dans une partition qu'on ne présente plus.
La donna è mobile, qual più mal vento muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in riso, e menzognero. La donna è mobile, qual più
pensier. Quelli pensier. Pensier.